C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir ajouter nos voix dans cette série « Relations idéales ». Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Nancy et moi sommes mariés depuis 28 ans maintenant. Nous sommes les fiers parents de deux belles jeunes femmes, Frédéric, 25 ans, et Elisabeth, 21 ans. Et nous avons la joie de servir ensemble à Nouvelle Vie depuis plus de 20 ans maintenant, et comme Livio le mentionnait, depuis plusieurs années maintenant, impliqués dans le ministère NV Couple aussi.
Oui. Et comme Benoît le dit, on est heureux ici d'aborder le sujet des relations ce matin avec vous. Mais quand on pense à relations, surtout à l'approche du 14 février, on pense souvent à relations de couple. Mais que vous soyez en couple ou non, ou que vous souhaitiez l'être ou non, si vous avez des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des amis, si vous avez un patron, des employés, des collègues de travail, des voisins, bref, si vous avez un pouls et que vous n'habitez pas sur une île déserte, ce message est pour vous ce matin. Et la raison, elle est bien simple, tout simplement parce qu'on est des êtres de relation. C'est Dieu qui nous a créés de cette façon-là. Mais bien qu'on soit des êtres de relation, le fait est, puis je vous apprends probablement rien ce matin, les relations humaines, c'est compliqué. C'est compliqué à 15, à 20, 30, 40, 50, 60 ans et même encore. La réalité, c'est que l'être humain a besoin des autres pour vivre et se développer, puis que peu importe le genre de relation, eh bien, on a des besoins qu'on aimerait qu'ils soient satisfaits. On a tous besoin de se sentir aimé, de se sentir important, pas vrai? De se sentir accepté, je veux faire partie du groupe moi aussi, de se sentir approuvé, de sentir que j'ai ce qu'il faut, que je suis à la hauteur, que je suis capable. Non, mais on se sent tellement bien quand quelqu'un nous dit « Hey, t'es vraiment extraordinaire, super travail que t'as fait là. Ouais, écoute, t'es tellement gentil ou gentille, c'est un privilège d'être ami avec toi. » Mike, on se sent bien dans ce temps-là. Mais les relations, elles deviennent difficiles et compliquées quand on a le sentiment que ces relations-là, elles ne sont pas rencontrées dans la relation. Puis souvent, ça peut nous laisser déçus, blessés, parfois même profondément malheureux. Puis on se sent vide, on se sent seul, parfois même sans valeur. Puis as-tu remarqué, Benoît, que souvent, quand c'est le cas, quand les besoins d'approbation, d'acceptation, d'amour ne sont pas rencontrés, je peux avoir tendance d'aller les combler par autre chose, le travail, mon compte de banque, mon statut social, par exemple.
Oui, tout à fait. Je pense que si on est honnête, ça nous est tous déjà arrivé, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Mais la réalité nous a rattrapés assez rapidement et on a réalisé que la vérité, c'est que c'est pas l'autre personne dans la relation, puis c'est pas une nouvelle voiture ou un nouvel emploi qui, ultimement, peut me combler complètement. Les et Leslie Parrott, qui sont deux psychologues américains, ce sont des experts au niveau des relations humaines, et eux, ils décrivent le problème comme ceci. Si tu essaies de développer une intimité avec une autre personne, autrement dit, tu essaies d'entrer en relation avec une autre personne, avant d'avoir fait le malheureusement difficile travail d'être complet par toi-même, d'être bien par toi-même, bien tout seul finalement, bien émotivement, bien psychologiquement et bien évidemment, bien spirituellement aussi. Autrement dit, mes relations sont aussi en santé que moi, je peux être en santé. Et c'est pour ça que sinon, toutes tes tentatives vont échouer. Et c'est ce qui nous amène au titre de notre message ce matin, des relations heureuses, bien ça commence par moi. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Dieu, dans sa parole, nous a donné tout ce qu'il faut, un manuel d'instruction pour une vie heureuse, pour avoir une vie abondante, des relations de qualité, des relations harmonieuses avec les autres. Vous connaissez tous ce passage en Marc 12, où un docteur de la loi demande à Jésus, c'est lequel le commandement le plus important? Et Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que celui-là. Il n'y en a pas de plus important que celui-là. Je pense que c'est assez clair que ça devrait être ma priorité. Regardez-moi bien ici un instant. Si je crois que Dieu veut le meilleur pour moi, si je crois que Jésus est venu pour me donner une vie abondante et que Jésus me dit, ces deux commandements-là, c'est les plus importants. Ces deux commandements-là résument toute la loi et les prophètes. Autrement dit, ces deux commandements-là, ça résume le cœur de Dieu pour moi. Alors, moi, je veux les comprendre. Parce que je vais être capable de les appliquer pratiquement dans ma vie à chaque jour pour pouvoir m'emparer de cette vie abondante que Dieu désire pour moi. Alors, si toi aussi, tu veux des relations plus plus abondantes, plus sereines, plus saines, plus satisfaisantes, bien, reste avec nous. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que ton bonheur, la qualité de tes relations, mais ça commence par toi, par ton amour pour Dieu, puis ton amour pour les autres.
Puis premièrement, aimer Dieu. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On vient de voir que nos relations, si elles sont saines, si elles sont solides, si elles sont harmonieuses, eh bien, elles sont source de notre bonheur. Parce que les relations, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais il y a une relation particulière pour laquelle on a été créé, puis c'est celle avec Dieu. Parce qu'il y a seulement Dieu qui peut me rendre complet, qui peut me rendre entier, qui peut venir combler le vide que nous ressentons tous et chacun de nous à l'intérieur. Blaise Pascal l'a exprimé de cette façon. « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. » Si je ne suis pas remplie, autrement dit, si mes besoins ne sont pas rencontrés, bien, c'est difficile de donner ce que je n'ai pas. Si j'ai constamment besoin de me sentir important, de me sentir aimé, ou si j'ai constamment besoin de me sentir compétent, de me sentir approuvé, mais en ce moment-là, l'autre dans la relation est là seulement pour venir rencontrer mes besoins. Puis moi, je n'ai rien à donner en retour. Alors, cette relation-là, soit qu'elle va être de très courte durée ou elle ne sera pas satisfaisante. Mais je vais illustrer ce principe-là parce que je pense que c'est mieux de pouvoir le visualiser. Là, on me dit de bien détailler pour ceux qui vont être en audio. Donc, ce bac à eau ici va être le mien. Celui-là, ça va être le tien, Benoît. C'est bon?
Parfait.
Puis la plante entre nous deux, c'est notre relation. Puis, imaginez pour un instant que ce seau représente ma vie. Puis voici ce qui arrive dans tellement de relations. C'est que j'avance dans la vie, puis je cherche des relations, des personnes qui vont venir me compléter, qui vont venir me donner l'amour, l'acceptation, l'approbation, le soutien, l'appui, les félicitations, l'encouragement dont j'ai tant besoin. Puis ce qui arrive, c'est que j'entre dans ces relations-là. Là, je mets mon seau dans l'eau. Puis j'espère que mes besoins vont être rencontrés. Puis moi aussi, je m'apprête aussi à me déverser dans la relation. Mais parce que je n'ai pas laissé Dieu venir remplir les trous, les vides qui sont en moi, et en ce moment-là, ça coule. Peu importe ce que je fais, peu importe avec qui est la relation, peu importe comment l'autre personne est merveilleuse, elle est incapable de venir remplir les trous qui sont en moi. Puis ce qui arrive bien souvent, c'est que je peux être tentée d'aller les combler par autre chose, par une nouvelle relation, un nouvel emploi, un nouvel enfant, ou une plus grosse maison, plus grosse voiture. Mais c'est pas long que je vais réaliser que c'est pas satisfaisant, parce que c'est impossible d'être rempli ou de donner quand ça coule. C'est difficile d'aimer quand ça coule. C'est difficile d'être sécure quand ça coule. C'est difficile d'avoir des relations harmonieuses quand ça coule. Tant que je ne laisse pas Dieu venir combler les vides, les trous qui sont en moi. Et c'est pour ça que devenir complet par moi-même, bien, ça commence par ma relation avec Dieu. Ça commence par aimer Dieu alors que je réalise l'amour incroyable, l'amour extravagant qu'il a pour moi. Comme le dit Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, 19, il nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. »
Dieu est amour. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse expérimenter son amour. Que ce soit ta première fois à l'Église ce matin, et si c'est le cas, on est content que tu sois là, on te souhaite la bienvenue, puis on espère que tu te sens à la maison ce matin. Ou au contraire, que tu sois chrétien depuis 50 ans. Bien, tu dois, je dois, Nancy doit, nous devons tous connaître, expérimenter, goûter à cet amour extravagant de Dieu, à cet amour inconditionnel, cet amour vraiment comme aucun autre amour. Éphésiens 3 le décrit comme ceci. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, et voilà, on commence, le meilleur arrive, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et ainsi, vous serez rempli, complet, comblé de toute la plénitude de Dieu. Moi, ça m'a pris plus que 10 ans de vie chrétienne pour connaître cet amour inconditionnel et vraiment expérimenter la paix que ça procure. Je vais me souvenir toute ma vie de ce matin, il y a une quinzaine d'années, alors que j'étais tout seul dans mon bureau, dans une tour au centre-ville de Montréal. Tôt le matin, je me souviens, il faisait noir dehors, il faisait froid, puis je priais, tout simplement. Et ce matin-là, Dieu m'a rencontré. Ce matin-là, Jésus m'a parlé. Pas une voix audible, bien entendu, mais une conviction profonde. Comme j'en avais jamais eu avant, comme j'en ai jamais eu après. J'ai eu cette conviction que Jésus me disait « Je t'aime inconditionnellement. » Je connais toutes ces choses dans ton passé, mais je suis mort pour ça. Je connais toutes ces choses-là aussi, oui, plus récentes, mais je suis mort pour ça aussi. Et je le sais, tu es parfaitement imparfait, tu vas en faire d'autres. Mais je suis mort pour ceux-là aussi. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es parfaitement pardonné parce que j'ai payé le prix pour toi à la croix. Amen. Je l'avais lu moi aussi. Je l'avais entendu prêcher moi aussi. Je connaissais la parole de Dieu. Mais ce matin-là, j'ai connu Dieu d'une façon complètement différente. Puis ma vie a été transformée. Si je suis ici ce matin devant vous, c'est parce qu'il y a eu ce matin-là. Si on est ici ce matin devant vous, c'est parce qu'il y a eu ce matin-là. Si quelque temps plus tard, sans aucun avertissement, un soir, ma femme me regarde et me dit, « Mais t'es tellement un meilleur mari maintenant. » T'es tellement un meilleur papa maintenant. Vous savez, quand on veut exprimer l'amour de Dieu, on le compare à l'amour d'un père, mais en mieux. Et c'est l'image que Dieu a choisie lui-même, mais le problème pour moi, et je suis convaincu que je ne suis pas le seul ici ce matin, c'est que j'en étais venu à comprendre que l'amour, même de mon père, mais ça se mérite. Que pour mériter d'être aimé, il faut performer. Pour mériter d'être aimé, il faut être à la hauteur. Il faut toujours être parfait. Et évidemment, ça peut être difficile à porter. Mais heureusement, l'amour de Dieu, c'est tout le contraire. N'est-ce pas, ma chérie?
Tout à fait. Sur une note plus légère. Qui aimerait avoir ce billet de 50 $ ici ce matin? Attendez, après la réunion, je vais juste finir. Enfin, je vais voir si vous êtes vraiment persistant. Si je le chiffonne, puis je le laisse tomber, le voulez-vous encore?
Ah oui,
moi. OK. Si je le piétine, je l'écrase, je le salis comme il faut, là, êtes-vous encore intéressé? Oui? OK, attendez. Si je m'en vais le traîner dans la boue puis la gadoue dehors, là, voulez-vous encore?
Oui.
Mais pourquoi est-ce que vous le voulez encore? Bien, parce qu'il a effectivement la même valeur. Il vaut encore 50 $. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Peu importe ton passé, peu importe tes doutes, peu importe tes erreurs, tu as la même valeur. Peu importe qu'on t'ait laissé tomber, qu'on t'ait piétiné, écrasé, sali, qu'on t'ait traîné dans la boue, tu as la même valeur aux yeux de Dieu. Et c'est quoi cette valeur-là? C'est le sang précieux de Jésus. En 1 Pierre 1, versets 18 et 19, ça nous dit « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu, plus que tout l'or et l'argent du monde. Le réalises-tu? » Et si c'est vrai pour toi, mais c'est vrai aussi pour ton prochain. C'est pourquoi le second commandement de Jésus, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même, comme une personne de grande valeur. Et qu'est-ce que tu fais avec les choses de grande valeur? Bien, tu les protèges, tu les manipules avec soin, tu les regardes avec émerveillement. Puis si quelqu'un les maltraite, tu n'es vraiment pas content. t'espères les garder longtemps. Avec ce deuxième commandement-là, Dieu nous appelle donc à deux choses. À penser puis à agir autrement avec les gens qui nous entourent. Et si tu saisis cette réalité-là, elle peut venir complètement changer tes relations. D'abord, penser autrement. De voir les autres dans la relation comme des personnes de grande valeur. Puis deuxièmement, d'agir autrement, alors que Dieu vient changer notre cœur. Et cette réalité-là, elle est réaffirmée un petit peu partout dans la parole, mais notamment en Matthieu 7, 12, qui est aussi connue comme la règle d'or. Et la règle d'or, elle nous dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Aimer ton prochain comme toi-même, autrement dit, ça veut dire « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. » Et c'est le premier des changements de cœur que Dieu désire opérer en toi. Pas penser que c'est une règle de série, de règles qui sont difficiles à respecter, mais plutôt des changements de cœur et de comportements qui vont apporter la paix puis la joie dans tes relations.
Faire pour les autres ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi, c'est d'abord et avant tout d'avoir un cœur de serviteur. Faire pour les autres ce qu'ils voudraient qu'ils fassent pour toi, c'est pas de leur faire ce qu'ils t'ont fait, c'est pas de leur faire ce qu'ils menacent de te faire peut-être, et soyons honnêtes, c'est pas non plus de leur faire des fois ce qu'ils mériteraient que tu leur fasses. Non. Faire aux autres ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi, pas la même chose, pas du tout. Mais faire pour les autres ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi, c'est à chaque fois une opportunité d'être un peu plus comme Christ. C'est ce que Paul nous enseigne en Philippiens 2, les versets 3 à 8. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La réalité, c'est pas naturel. Ça vient pas tout seul d'être gentil, généreux, avenant avec des gens qui sont tout le contraire, qui vont être insensibles, impolis, qui vous détestent et qui ont été méchants avec vous. Ça vient pas naturellement. C'est pour ça qu'il faut que je sois constamment renouvelé, rempli, rencontré par Dieu. Parce qu'humainement, sinon, c'est impossible. Imaginez une de vos relations, n'importe laquelle. Si vous êtes en couple, évidemment, ça peut être votre mariage. Mais imaginez que chacun focalise sur les besoins de l'autre. Imaginez que chacun focalise sur les besoins de l'autre, les désirs de l'autre, le plaisir de l'autre. Si chacun prend une attitude de serviteur envers l'autre. Wow. Mais c'est exactement ça. Aimer mon prochain comme moi-même. C'est exactement ça, aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je donne de moi-même de façon désintéressée. Je donne de moi-même sans rien espérer en retour. Mais c'est alors que je m'occupe des besoins de l'autre ou des autres autour de moi, que je réalise combien Dieu s'occupe de mes besoins à moi. C'est alors que je réalise toutes les bénédictions de Dieu dans ma vie. Et c'est un deuxième changement de cœur.
Oui, avoir un cœur reconnaissant. Compte tes bénédictions. La parole nous appelle à compter les bénédictions de Dieu. Soyons honnêtes, il n'y a personne qui aime ça, être avec quelqu'un qui se plaint tout le temps puis qui n'est jamais satisfait. Je dois apprendre à apprécier ce que j'ai. Puis c'est plus important encore dans les relations que dans les possessions. Si je passe mon temps à critiquer, que ce soit mon conjoint, mes parents, mes enfants, mon patron, à constamment leur rappeler ce que les autres font de mieux que lui ou elle, ou que les autres ont, que lui ou elle n'a pas, ou à leur dire que lui est plus musclé, puis elle est plus mince, bien, à ce moment-là, je ne suis pas dans la reconnaissance, mais je suis plutôt dans la convoitise, la critique, le dénigrement. Comme Benoît l'a dit, Dieu me demande de focusser sur les qualités de l'autre, puis de savoir les apprécier.
Et pour les couples, j'ajouterais, votre conjoint, votre conjointe, ça devient votre standard de beauté. Alors, si votre épouse est brune, vous, il n'y a rien que vous puissiez faire, vous préférez les brunes. Sauf si un jour, elle décide de se faire teindre en blond. Et là, il n'y a rien à faire, c'est automatique, vous préférez les blondes.
Voilà.
Histoire vécue, je suis tombé en amour avec une blonde, J'ai marié une brune, mais je la trouve tellement belle en blonde. Il y en a qui n'ont pas l'air convaincus. Juste à être clair, c'est la même personne depuis 28 ans.
Mais là, tous mes secrets sont révélés maintenant.
Oui, désolé. Dieu désire me donner un cœur de serviteur, un cœur reconnaissant et troisièmement, un cœur humble. Un cœur qui est capable d'accepter sa part de responsabilité puis qui est capable de demander pardon. Parce que soyons honnêtes, s'il y a un problème et qu'il y a un risque que je sois pris en défaut, instinctivement, ma réaction, c'est de trouver un coupable. Et le plus rapidement possible, avant que quelqu'un dise que c'est moi le coupable. Je l'avais fait, mon travail, monsieur le professeur, mais mon chien l'a mangé.
Un classique.
Oui, mais surtout quand tu n'as pas de chien. On n'a pas eu le contrat. J'avais préparé la meilleure des présentations. Mais quand mon patron est allé rencontrer le client, je pense qu'il ne filait pas. J'ai crié après ma femme, mais on dirait que je n'existe plus depuis qu'on a eu un enfant. Encore une fois, c'est mon besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être à la hauteur, de me sentir compétent qui est en jeu ici. Et ça ne date pas d'hier, hein? Vous l'avez tous lu en Genèse. Au premier problème de l'histoire de l'humanité, Adam a blâmé Ève, puis Ève a blâmé le serpent. Mais c'est aussi exactement ce à quoi Jésus fait référence quand il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » Toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est en commençant par adresser mes problèmes, mes fautes, mes manquements, mes bebelles à moi, que je vais voir plus clairement la situation chez l'autre. C'est ça que j'ai dit, Jésus. Ôte premièrement la poutre dans ton œil. Jésus ne dit pas qu'il n'y en a pas de problème chez les autres. Oui, il y en a une paille, mais commence par toi. Commence par toi et alors tu verras. Et alors tu verras qu'au final, souvent, ce qui apparaissait très gros chez l'autre, un très gros problème, quelque chose qui devait changer absolument, c'était pas si gros que ça comparé à ce qui devait changer chez moi. Pas besoin d'être des pros de la réno pour savoir qu'une poutre, c'est pas mal plus gros qu'une paille, n'est-ce pas? Alors, quand j'ai une relation qui va mal, au lieu de simplement aller devant Dieu et dire « Seigneur, change-le, change-la », allons humblement devant Dieu et demandons-lui, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui devrait changer aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait changer en moi auparavant? Pratico-pratique. Je pourrais être tenté, par exemple, en ce temps de Saint-Valentin, d'offrir un livre sur le mariage à mon épouse ou à mon époux. En ayant, bien sûr, pris soin de souligner en jaune toutes les choses qu'il ou elle ne fait pas comme il faut, ne fait pas, devrait faire. Finalement, toutes les raisons pour lesquelles notre mariage n'est pas aussi extraordinaire qu'il devrait ou pourrait l'être. Mais ce serait tellement plus productif d'en acheter deux. De le lire chacun de notre côté. Puis après chaque chapitre, par exemple, on s'assoit ensemble, puis on en discute. Avec un cœur humble. Un cœur qui est prêt à prendre sa part de responsabilité, puis à demander pardon. Évidemment, Dieu me demande d'assumer ma part de responsabilité et de demander pardon. La suite logique, et c'est notre quatrième changement de cœur, c'est d'avoir un cœur doux qui est prêt à accorder le pardon aussi, évidemment.
Oui, parce que le but de l'ennemi, c'est de détruire les relations en général, puis les familles en particulier. Puis sa stratégie, c'est de diviser. Jésus nous dit en Matthieu 12, 25, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ce que Jésus nous dit, c'est que l'ennemi, il veut détruire ta maison. Il veut détruire tes relations, ta famille, ton couple. Puis que la première chose qu'il doit faire pour les détruire, c'est de les diviser. Puis sa façon de faire, c'est l'offense. À chaque conflit ou chicane que vous avez, l'ennemi essaie de créer une division, une séparation, vraiment une fissure entre vous deux parce qu'il veut détruire la relation. Il veut détruire le couple, la famille, les amitiés. Mais la Bible nous dit en 1 Corinthiens 13 que l'amour, en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. Moi, j'aime cette citation de Ruth Graham, qui était l'épouse de l'évangéliste Billy Graham. qui nous disait « Un mariage heureux, c'est l'union de deux bons pardonneurs. » Et moi, je vous dirais, une relation heureuse, en fait, toutes les relations heureuses, c'est un lien entre deux bons pardonneurs. Vous savez, Benoît, il me pose souvent la question lorsqu'il m'arrive d'être fâché contre quelqu'un ou blessé. Vous, ça ne vous arrive pas, mais ça m'arrive des fois d'être fâché. Puis, alors que je me questionne à savoir comment je vais répondre, ce que je vais dire, Benoît va me dire « Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? » Parce que soyons honnêtes, souvent sous le coup de l'impulsivité ou parce qu'on est blessé, on va dire ou faire des choses que si on s'arrête à y penser, on est capable de prévoir ça va être quoi la résultante par la suite. T'sais, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? À quoi ça ressemblerait à la place si je rendais le bien pour le mal? Pas d'ignorer l'offense, mais de faire le bien malgré le mal. Parce que c'est quoi l'histoire que je veux raconter au final? Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Parce qu'il ne faut jamais oublier que je peux très bien pardonner, même si l'autre ne s'est pas excusé ou a demandé pardon. Parce que pardonner, je peux faire ça tout seul. C'est vrai que pour se réconcilier, par contre, ça prend deux... pour se réconcilier, ça prend deux personnes qui coopèrent. Et la Bible, elle est claire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Puis finalement, pour être capable de faire tout ça, d'aimer mon prochain comme moi-même, pas parfaitement, bien sûr, par la grâce de Dieu, mais ça demande une chose qui est vraiment la plus importante, puis c'est d'avoir un cœur enseignable devant Dieu. Que lorsqu'on va devant lui puis qu'il nous montre des choses, qu'on est prêt à faire le changement en conséquence. Puis d'être enseignable aussi par rapport aux autres, parce que parfois Dieu va parler à travers les gens qui placent autour de nous. Parce que comme on le dit, au final, une relation heureuse, bien, ça commence par moi, ça commence par être transformé puis par être rempli par Dieu.
Parce que je sais que j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu, mais je sais que je peux lui faire confiance dans tous les aspects de ma vie. Puis c'est ainsi que je peux devenir la personne que Dieu désire que je sois. Parce qu'il m'aime tellement, je sais, je le crois profondément, ses plans sont les meilleurs plans qu'il puisse y avoir pour ma vie. Paul nous l'enseigne comme ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ça veut dire d'être enseignable. Alors que je m'approche de Dieu humblement, il me montre des choses qui doivent changer chez moi. Et c'est alors que je peux devenir la personne qu'il désire que je sois. Et c'est notre histoire à nous les premiers. Il y a vraiment un avant et un après. Alors que je m'approche de Dieu humblement, bien souvent, il va me montrer des choses, des habitudes que je dois abandonner, que je dois arrêter. Il y en a pour qui ça peut être un problème de colère. Pour d'autres, ça peut être un mensonge. Un mensonge que tu as cru ou un mensonge que tu as dit. Pour d'autres, ça peut être une relation malsaine, une addiction. L'Esprit va te montrer. Alors que je m'approche de Dieu humblement, bien souvent, il va me montrer aussi des choses ou des habitudes que je dois faire, que je dois commencer ou recommencer. Pour certains, vous le savez, c'est plus de temps dans la parole. Pour d'autres, c'est peut-être plus de temps avec Dieu en prière. Pour d'autres, c'est peut-être simplement plus de temps avec ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu devrais demander pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu devrais pardonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu te demande de donner? Peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que c'est ton église. Pour d'autres, ça peut être simplement de faire la vaisselle, de sortir les ordures, sans que personne le demande, puis sans en parler après. Si tu sens une conviction, c'est Dieu qui te parle. Mais attention, si tu sens de la condamnation, si ce que tu entends, c'est des choses comme « Tu ne seras jamais capable, ça ne donne à rien, tu ne feras jamais rien de bon, il est trop tard. » Ça, c'est de la condamnation. Ça, c'est l'ennemi qui veut t'empêcher de devenir la personne que Dieu désire que tu sois. Mais souviens-toi, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors que je m'approche de Dieu humblement, il va aussi bien souvent me montrer des blessures du passé, me montrer des craintes que j'ai en moi. Des choses que je traîne souvent depuis très longtemps avec moi et malheureusement des choses que je traîne avec moi dans chacune de mes relations. Et là, j'aurais beau changer d'emploi, changer de patron, changer de cercle d'amis, changer de conjoint à la limite. Je vais traîner mes craintes et mes blessures dans chacune de mes prochaines relations. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit adressé. Je ne sais pas c'est quoi pour toi. Il y en a pour qui c'est de l'abus. Ça peut avoir été physique, verbal, sexuel, peut-être. Peut-être que pour toi, au contraire, c'est du rejet, de la critique, de la négligence. Ça peut avoir été un parent, un professeur, un entraîneur, un ami ou tout simplement une relation précédente. C'est quoi ta crainte? C'est quoi tes craintes? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? La crainte de ne pas être un bon parent, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de faire faillite peut-être. C'est quoi pour toi? Moi, j'avais énormément de rancune qui se traduisait par de la colère. J'ai vécu des choses dans mon enfance que je n'aurais jamais dû vivre. Et j'ai réalisé qu'inconsciemment, je blâmais mon père pour ça. Et comme j'ai dit tantôt, bien, je ne pouvais pas tolérer d'être pris en défaut, parce qu'être pris en défaut voulait dire que je ne performais pas, que je n'étais pas parfait. Et si je n'étais pas parfait, je n'étais pas digne d'être aimé. Mais quand tu t'approches de Dieu avec humilité, tu peux être certain qu'il va te montrer ce qui doit et peut changer en toi. Quand tu t'approches de Dieu avec humilité, tu peux être certain qu'il veut et peut apaiser chacune de tes craintes. Quand tu t'approches de Dieu avec humilité, tu peux être certain qu'il veut et peut guérir toutes tes blessures. Ça peut être douloureux et pénible. Ça peut demander à l'occasion l'aide d'un pasteur ou d'un thérapeute. Mais c'est la seule façon d'apaiser ton cœur. C'est la seule façon de guérir tes blessures. C'est la seule façon de restaurer tes relations endommagées. Et au final, c'est la seule façon de devenir la personne extraordinaire que Dieu désire que tu sois.
Amen. J'inviterai les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît. Oui, devenir la personne que Dieu désire que je sois, comme on l'a dit plusieurs fois, ça commence par moi. Premièrement, en aimant Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force, alors que j'ai saisi l'amour extravagant qu'il a pour moi. Puis deuxièmement, en aimant mon prochain comme moi-même, comme une personne de grande valeur. Puis ça, c'est pas Benoît et moi qui le disons, c'est Jésus qui nous a dit, ce sont les deux plus grands commandements. C'est possible alors que Dieu y transforme nos cœurs. En ayant, premièrement, comme on le dit, un cœur de serviteur, en faisant pour les autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi. Deuxièmement, en ayant un cœur reconnaissant. Je compte mes bénédictions. Il y a un vieux cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et alors tu verras combien le nombre en est grand. » Troisièmement, un cœur humble, en étant prêt à prendre ma part de responsabilité, à demander pardon. Quatrièmement, un cœur doux, en étant prêt à pardonner, en laissant pas l'offense venir nous diviser. Puis finalement, en ayant un cœur enseignable. Et ça, c'est rendu possible alors que je laisse Dieu venir transformer mon cœur. Puis idéalement, que les deux personnes dans la relation permettent à Dieu de venir travailler dans leur vie puis dans leur cœur. Puis c'est alors que je suis transformée que mon cœur est en mesure de pouvoir déborder puis d'aimer l'autre dans la relation comme moi-même. En terminant, si on revient à notre illustration du début, on a mentionné qu'on est tous des êtres imparfaits, pécheurs, qui traînent des blessures avec nous. Puis, malheureusement, je ressemble à ça. Ça coule et ça coule. Je ressens un vide à l'intérieur. Et c'est pour ça que je cherche à créer des relations qui vont venir me compléter, qui vont venir combler le vide, qui vont venir me donner l'amour, l'acceptation, l'approbation que j'ai besoin pour être heureux. Mais malheureusement, souvent, l'autre se retrouve dans la même situation.
Ça coule de ce côté ici aussi.
Ouais. Est-ce que ça coule plus longtemps?
Ça coule, en
tout cas. Puis on est incapable de se déverser dans la relation. Mais alors que je vais vers Dieu, que je réalise premièrement la grande valeur que j'ai à ses yeux, mais aussi l'amour incroyable qu'il a pour moi, puis que non seulement il peut, mais qu'il veut venir me transformer. Que je m'approche de lui avec confiance, que je lui demande, « Seigneur, révèle-moi ce qui doit changer. » Que je suis enseignable, puis que je lui permets d'agir dans mon cœur, puis de venir me transformer. Mais à ce moment-là, je suis prête à me déverser dans la relation. Pas dans l'autre, parce que mon travail, c'est pas de venir remplir le seau de Benoît. Mon travail, c'est de verser le mien. Parce que je suis pas capable de remplir le seau de Benoît. Il y a seulement Dieu qui peut venir remplir Benoît. Puis je dois faire confiance à Dieu qui va venir réparer les trous, les vides à l'intérieur de Benoît. Moi, mon travail, c'est d'aller puiser auprès de Dieu puis de déverser le meilleur de moi-même chaque jour dans la relation qui est représentée par la plante.
Et idéalement, les deux le font.
Exactement. Et c'est à ce moment-là que je vois la relation qui va prendre racine, qui va grandir, qui va s'épanouir, qui va fleurir, puis qui va porter du fruit. Puis c'est parce que Dieu est venu me transformer que je suis capable d'offrir cet amour désintéressé, cet amour qui se donne sans rien attendre en retour. Ouais. Vraiment, c'est une relation continue. C'est une relation, ma relation avec Dieu, c'est une relation continue. C'est comme la nourriture pour mon corps. La nourriture spirituelle d'hier n'est pas suffisante pour me nourrir aujourd'hui. Puis l'eau d'hier, elle n'est pas suffisante pour me désaltérer aujourd'hui. Je dois aller chaque jour puiser l'eau, puis la nourriture à la source de vie qui est Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des individus en santé pour former des relations en santé. Amen. Amen.
Si vous êtes prêts pour une relation divine, prions ensemble. Et je vous invite, que ce soit votre conjoint, peut-être vos enfants, vos parents, peu importe, les relations qui sont avec vous, peut-être vous prendre par la main, par la taille, par les épaules, comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise. On veut remettre nos relations au Seigneur. Mais Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'abord et avant tout, on te dit merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour cet amour extravagant, Seigneur, que tu as envers nous. Cet amour inconditionnel, cet amour comme aucun autre amour. Seigneur, merci parce que tu es là et nous savons que tu désires le mieux pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Alors on te prie, Seigneur, par ton esprit, moins de nous et plus de toi dans chacune de nos vies. Seigneur, on s'approche devant toi pour recevoir plus de toi, plus de ton esprit. Montre-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce qui doit changer. Montre-nous, Seigneur, ce qui doit arrêter. Montre-nous ce qui doit commencer. Montre-nous ce qui doit être guéri. Montre-nous ce qui doit être apaisé. Seigneur, on s'approche de toi humblement en te demandant, viens. Viens dans ma vie. Viens dans mon couple. Viens dans ma famille. Viens dans chacune de mes relations, Seigneur Jésus. Viens, viens, Esprit de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Chantons ensemble cet amour extravagant de Dieu.